en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, je vous remercie, je te remercie, mais enfin restons vous, protocolaire, de ce rappel d'une spécialisation, si l'on peut dire, que j'ai embrassée très tôt par hasard. Et j'ai d'ailleurs remarqué plusieurs fois que le hasard a joué un grand rôle dans ma vie, y compris dans mon élection ici. Donc je revendique toujours le chiffre 5, magique, sauf que je parle le 2. Je remercie aussi Monsieur le secrétaire perpétuel d'avoir organisé un déjeuner. En général, on donne le déjeuner ou la brioche après la conférence, mais là, je vois que le public était fixé avant, par précaution. Hier soir, au moment où je préparais un peu cette conférence, un de mes amis m'a téléphoné et m'a dit « Sais-tu qu'à l'heure actuelle, 33 millions de personnes suivent le tweet du pape François ?» Je lui dis « Je crois savoir, j'ignorais qu'il était arrivé à 33 millions. » Il me dit « C'est bientôt 34. » Et réfléchissant à cet emploi du tweet propre aussi à d'autres grandes secondes, je ne cite personne, je me suis dit « Je vais raconter une histoire que j'ai écrite donc cette nuit. » Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, avec ce surgissement foudroyant de l'opinion publique, la considération qu'on a pour elle, celle qu'elle n'a pas pour le Saint-Siège, celle qu'elle n'a pas toujours pour tous les papes, et comment finalement la crise peut être résolue un instant, n'est pas totalement résolue non plus, avec la figure du pape actuel. Voilà donc le récit. Le jeudi 11 octobre 1962, à partir de 9h30, par une matinée romaine douce et claire, une longue théorie d'hommes en chape et mitre blanche, archevêques, évêques, coadjuteurs ou auxiliaires, supérieurs de congrégations religieuses, patriarches, traversait lentement la place Saint-Pierre pour entrer dans la basilique. Le cortège sur deux files s'égrenait sur 5 kilomètres. Ces hommes étaient les pères conciliaires, docteurs de l'Église, convoqués par le pape Jean XXIII pour réfléchir sur le magistère de l'Église tout entière et la place de celle-ci dans le monde contemporain. Ils formaient avec le pape le 21e concile œcuménique depuis celui de Nicée. Le dernier concile, Vatican I, avait été dramatique. Il remontait à près de 100 ans. Personne ne s'attendait plus à une nouvelle assemblée de cette nature. Les pères conciliaires étaient 2540. Plus de la moitié venait d'Europe de l'Ouest. 1000 invités choisis dans le monde entier avaient été placés dans le transept. Les pères étaient répartis en deux tribunes de part et d'autre de l'allée centrale de la nef, longue de 187 mètres, j'ai vérifié, comme à la Chambre des communes en Grande-Bretagne. La basilique était transformée en assemblée conciliaire. L'impact de cette réunion serait mondial. Une foule impressionnante et bavarde sur la place Saint-Pierre, bénéficiant de la retransmission de la cérémonie en Eurovision, sur un écran géant, ainsi que les téléspectateurs d'une grande partie de l'Europe de l'époque, observaient l'événement. Sur la sedia gestatoria, portée par 14 sediari et entourée de porteurs qui sont porteurs de grands éventails de plumes, les flabella, le pape Jean XXIII, âgé bientôt de 81 ans, fermait le cortège. Le Tu es Petrus, entonné par la chorale de la basilique, salua l'entrée du pontife jusqu'à l'autel pontifical. Les portes de bronze se refermèrent sur lui. Mais, invisible, attentive, quoique distraite encore, protéiforme comme une fumée, derrière le pape était entré également tenace et bien installée l'opinion publique. Elle ne quitterait plus jamais le Saint-Siège, le Vatican, l'Église. Elle en serait désormais la croix pour le catholicisme romain, qu'elle ait affronté une révolution inattendue après 19 siècles d'une histoire mouvementée et inégalement maîtrisée. Comme arme de réponse à l'époque, le Vatican, le Saint-Siège et l'Église ne disposaient que de Radio Vatican, fondée en 1931, et de l'Osservatore Romano, fondée en 1861, et d'insertion plus ou moins aléatoire dans les grands journaux nationaux, locaux, voire les bulletins d'associations diocésaines ou laïques. C'est-à-dire que pour entrer dans le vif du sujet, Vatican II fut un concile qui se déroula sur la place publique en raison de l'inaptitude de l'Église à maîtriser les médias et la relation de ceux-ci avec les acteurs du concile, ignorante qu'était l'Église des moyens de communication et même qu'ils existassent. Ce sera le premier point de cet exposé. Dans un second point, on verra comment l'impopularité du Saint-Siège par moment et le fracas de Vatican II en tout cas ont été progressivement dominés par un apprentissage de la communication au point de devenir maintenant un art consommé et peut-être trop bien consommé. L'opinion publique, insidieusement au départ et de plus en plus insistante au fil des mois et des années, rompit le secret juré par les pères conciliaires qui constituait la nature de la relation entre l'Église et ses membres, et en particulier au Vatican depuis des siècles, le secret. Elle banalisa même le mystère de l'institution. Elle pulvérisa le secret en opposant à ce qu'il demandait de patience, de réflexion, d'intelligence et de confiance, l'histoire immédiate, l'impatience, le résultat, voire même le lobbying. À la conception de la perfectibilité consubstantielle à la mission prophétique et humaine de l'Église, elle substitua celle du rendement, du profit, de la comparaison avec les sociétés civiles. Bref, à la verticalité du message dont l'Église est censée être le relais permanent, on opposa l'horizontalité de l'instant, du moment, de la vérité brutale des mots. Finalement, à la tension du perfectus, elle substitua le progressus, le renouvellement substantiel permanent. L'annonce du projet, et je dis bien projet, donc d'un projet de concile par Jean XXIII le 25 janvier 1959 à Saint-Laurent-hors-les-Murs passa relativement inaperçu. Le pape, en effet, le mentionna en même temps que ceux d'un synode romain, qui eut lieu en 1960, et d'une réforme du droit canonique promulguée par Jean-Paul II en 1983. 3 ans et demi séparèrent donc la maturation du projet et sa réalisation. Le deuxième concile du Vatican fut convoqué par la bulle Humanis Salutis le 25 décembre 1961, il faut bien être historien. Au cours de tous ces mois, le futur concile éveilla, réveilla, sollicita, agrégea autour de sa réunion une opinion publique composée de plusieurs cercles de plus en plus larges qui finirent par se souder les uns aux autres lentement dans une sorte d'orbite concentrique. Dire que le projet de concile éveilla l'opinion publique va de pair avec le constat que l'élection de Jean XXIII, patriarche de Venise à l'époque, élu au 11e tour du scrutin le 28 novembre 1958 dans la lassitude du conclave, à l'âge de 77 ans, fut déjà une surprise. On ne savait rien du patriarche de Venise. Une certaine indifférence régnait dans les médias, tant à cause de la longueur de la procédure que d'un détachement réel à l'égard de la papauté, à la suite de l'interminable agonie de Pie XII. On rappela simplement que c'était un diplomate et un bon curé de paroisse rurale au départ, deux versants d'une personnalité qui se complétait, que résumait le mot passe-partout de fourbo, ce qui veut dire rusé, et un peu plus ailleurs. Le nonce Roncalli avait fait merveille en France par sa bonhomie et sa ténacité. L'éveil vient plutôt de la lettre circulaire du 18 juin 1959 du cardinal Tardini, secrétaire d'État, à tous les cardinaux, archevêques et évêques du monde et à diverses communautés pour leur demander leurs avis et suggestions sur les sujets à traiter au concile. On parlera donc d'une phase antépréparatoire qui dura un an. Celle-ci déboucha sur la remise entre les mains de la curie d'un ensemble de vota exprimés par des cercles de fidèles réunis en associations catholiques ou chrétiennes des 5 continents et en général autour de l'évêque. Ces vota, qui sont une sorte de consultation populaire, furent tout de suite imaginés comme étant la réponse au cahier de doléances, par comparaison. Portaient essentiellement sur la liturgie, la curie romaine, les missions, l'éducation chrétienne, la formation du clergé. Autant de thèmes qui finirent par être retenus au concile et qui sont encore d'actualité. Ils furent progressivement répartis en 72 schémas, futurs programmes du concile, mais ignorés dans son détail par la plupart des pères. Ce fut la phase préparatoire. Au cours de cette phase, certains continents, tels l'Afrique, certains évêques, tels Mgr Wojtyla, certains théologiens, comme le père Ratzinger, certains laïcs émergèrent. Ils seraient l'élément majeur de l'activité conciliaire à ses débuts. La convocation du concile réveilla l'opinion publique et sollicita des cercles plus vastes autour de ce que l'on peut appeler à l'italienne l'œil médiatique, occhio mediatico, c'est connu, dont les journaux, les revues, les télévisions et les radios se firent progressivement et de plus en plus les porte-paroles et les porte-voix. Enfin, la dramatisation du concile, qui eut lieu le 13 octobre 1962, deux jours après la multiple splendeur de l'ouverture, élargit progressivement la réception et le commentaire de l'événement au quotidien de la vie du monde. Les effets se faisaient se prolonger jusqu'à l'époque actuelle. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, sur une question de procédure, l'Église, le pape et la curie furent contestés au sein même du Vatican et de l'Église. Le 13 octobre 1962 étaient prévues des élections pour désigner les membres des commissions conciliaires qui devaient relayer les commissions préconciliaires chargées de préciser le programme de Vatican II. Toute cette affaire était très compliquée et très longue. Or, grosso modo, la présentation aux pères conciliaires des listes composant ces nouvelles commissions était identique à celle des commissions préparatoires. La plus importante d'entre elles, provenant de la congrégation pour la sacrée congrégation du Saint-Office, future congrégation pour la doctrine de la foi, dont le cardinal Ratzinger fut le président très longtemps, présidé à l'époque par le terrible cardinal Ottaviani. Dès la première congrégation générale, la messe dite, l'évêque de Lille, le fameux cardinal Liénard, intervint peu après le début du vote qui était commencé. Fort de son statut de membre du conseil de présidence du concile, pouvant prendre la parole à tout moment et hors de tout moment, il se leva, déclara son embarras et sollicita ni plus ni moins qu'un délai pour l'élection de ses commissions. Il indiqua trois avantages de cette procédure fort calmement. Les évêques pourraient prendre le temps de se concerter, de s'informer. Ils se donneraient pour preuve de leur indépendance et de leur confiance mutuelle le délai de ce vote. Enfin, le vote serait plus rapide. Pour la première fois, des applaudissements nourris éclatèrent dans l'aula. Une majorité venait de se dégager contre la curie romaine et sans l'avis du pape. La presse, qui s'est alors nourrie et jusqu'alors d'apparat et d'apparence, trouva immédiatement le terrain du politique. François, le jour même, titrait « Les évêques français en révolte au concile ». Henri Fesquet, dans Le Monde, parlait du coq gaulois dressé sur ses ergots. La presse étrangère emboîta le pas. Seul le sévrateur Romano, tout de même, regretta cette fâcheuse initiative. D'un seul coup, une majorité conciliaire se proposait sans qu'elle existât vraiment. En outre, la pluie de confidences contournant le secret en principe gardé par les pères conciliaires, était ouvert définitivement, et les réseaux s'organisaient immédiatement, qui feraient désormais le concile pour une part en coulisses. Il existe plusieurs versions de l'intervention inopinée du cardinal Liénard. Celle de l'initiative privée est fausse. Et elle est invoquée sous le signe de la Providence, c'est classique dans l'Église, quand on fait quelque chose qui est préparé depuis très longtemps. Et celle d'un important réseau franco-belgo-allemand, désigné comme fonctionnant déjà par téléphone et petits porteurs obscurs dans la nuit du 13 au 14 et du 14 au 4 octobre. C'est la rumeur du Vatican qui circule, de Rome qui circule près du Concile. De toute façon, la thèse du réseau est la bonne. Impressionnante fut la vitesse avec laquelle les nouvelles listes furent composées, imprimées, distribuées et ratifiées dès le 15 octobre 1963. Le résultat démontra que s'opéra une opération de sélection réfléchie, un reclassement des compétences et la promotion de certains évêques, jusqu'alors restés totalement en marge du Concile. Implicitement, ce fut aussi une réforme du personnel de la curie qui fut esquissée et laquelle se ferait sous Paul VI et sous Jean-Paul II et encore aujourd'hui. Mais surtout, le report demandé par le cardinal Liénard eut des conséquences incalculables et encore maintenant. Donnant naissance au principe d'une majorité, il traça le chemin pour une minorité. Il éveilla les petits pays à prendre conscience de la nature du concile, en faisant un événement médiatique de la rapide consultation entre les pairs via les conférences épiscopales, quand elles existaient. Il politisa Vatican II. Les médias parlèrent entre autres de listes du marché commun. Enfin, ces quelques paroles eurent pour effet de faire du souverain pontife un arbitre des conflits. Position difficile, puisque Jean XXIII rééquilibra l'ensemble par des nominations complémentaires prévues par la procédure. Si l'activité du Concile emprunta très vite un rythme soutenu, l'opinion publique se mit au diapason. Les médias s'intéressèrent au programme de Vatican II. Ils furent les premiers à dénoncer son ampleur. L'examen des schémas était saccadé et la pression prévalait que le Concile aboutirait difficilement. Chacun savait plus ou moins que Jean XXIII, déjà malade, souhaitait une longue session, une seule. Le schéma qui rencontra le plus de difficultés fut consacré aux moyens de communication sociale. Il touchait à la fois la doctrine de l'Église en la matière, rappelant ses droits, évoquant les devoirs des pasteurs et à la compétence des laïcs selon les principes moraux réglant l'usage de ces moyens. Il en résulta finalement, c'est un très mauvais schéma, je dis entre nous. Il est d'ailleurs revu, conçu comme tel par le Saint-Siège. Il n'a jamais été repris. Il en résulta finalement cette appréciation sur les opinions publiques, que je cite tout de même par charité vaticane, les opinions publiques expliquent de nos jours, exercent de nos jours une influence énorme sur la vie privée et sur la vie publique des citoyens à quelques milieux qu'ils appartiennent. Il est donc nécessaire que tous les membres de la société remplissent dans ce domaine aussi leurs devoirs de justice et de vérité. Ils emploieront les moyens de communication sociale pour concourir à la formation et à la diffusion des saines opinions publiques. Il y eut tout de même, au moment du vote, 563 non-placettes. Le schéma fut voté en 1963 pour qu'il y ait au moins un schéma voté dans ce concile qui n'aboutissait pas. Je passe sur le responsable, sur ce qui est dit responsable de communication, qui ne sont pas très bien traités. Mais pour rester sur le terrain de la communication, dès l'origine surtout, l'incident Liénard posa le problème du langage. Il était convenu que les pères conciliaires et l'ensemble du concile parlerait latin. Le concile ne possédait aucun système de traduction. Les grands latinistes étaient peu nombreux, et le cardinal Tisserand, président du conseil de présidence, était peut-être le seul à être bilingue en latin et en toute autre langue. Cette frontière entre les mentalités déjà très hétérogènes fut relevée par le cardinal Cushing, archevêque de Boston, qui proposa nettement au pape de rassembler les fonds dans son diocèse nécessaires pour installer un système de traduction simultanée. Il dit qu'il le pourrait le faire en une semaine. Un refus poli lui fut opposé par le souverain pontife. Le concile avait eu trois langages. Le latin, les experts en théologie y tinrent une bonne place et accompagnèrent beaucoup de pères. L'anglais, et si l'on peut dire l'européen, que de nombreux pères, parlant leur propre langue, devinaient en écoutant la langue des autres. Une sorte de langage mixte, avec beaucoup de gestes. À cet égard, Vatican II fut un concile très agité en gestes. Enfin, deux mots propres à l'Église et à la société civile se croisèrent désormais pour devenir des acceptions ordinaires. Aggiornamento, versus la société civile qui l'utilisa à son tour, et états généraux, bien qu'on parlât déjà d'états généraux de l'Église. États généraux versus le concile. Les deux sociétés se rencontrèrent sur ces mots, il y en a d'autres. Les médias et l'opinion publique se retrouvèrent donc ainsi sur un champ lexical assez mixte qui, dans les grands débats, devrait brouiller les pistes. Or, Vatican II, au départ, ne disposait d'aucun instrument pour l'information de l'opinion, au-delà des mots usés par les acteurs ou les spectateurs sur leur culture et leur perception. Il manquait d'une tour de contrôle. Non sans difficulté, et c'est l'origine de la communication, un bureau de presse fut institué sous la direction de Mgr Valinck, placé sous l'autorité de Mgr Felici, secrétaire du Concile. Chacun sait que le secrétaire du Concile, à la fin d'un Concile, est élevé au cardinalat. Mais les membres de ce bureau de presse n'étaient pas considérés comme des personae in concilium partem abentes. L'information dépendait des règles sélectives propres à l'État du Vatican à l'égard des journalistes et des photographes. Elles étaient très sélectives. Le Serrettore Romano avait l'avantage considérable de paraître l'après-midi et de pouvoir donner la primeur de la congrégation générale du matin. Une inégalité de fait devait s'instaurer très vite entre les journalistes du Vatican et les autres, et parmi les autres, entre les journalistes appartenant à un organe catholique et un organe qui était un journal laïque. À l'occasion du Concile, Rome se trouvait devant un problème nouveau. Démêler la curiosité pour le Concile du droit de l'opinion à une information, la curiosité pour l'Église au droit de l'opinion à une curiosité. Les organisateurs du Concile crurent que le moyen le plus efficace était de ne pas céder à la confusion et consistait à essayer de diriger, voire d'orienter l'information. Après chaque congrégation générale, Mgr Valinck, jusqu'en 1965, rédigeait un communiqué sous la direction de Mgr Felici. Au bureau de presse, il étoffait ce communiqué d'observations orales, plutôt porte-parole et ses sections linguistiques, nommées ou appointées par le Vatican, dont aucun n'avait le droit d'assister aux congrégations générales. Leur tâche consistait essentiellement à traduire le communiqué établi par Mgr Valinck, à le présenter aux journalistes qui eux-mêmes devaient en faire un résumé pour leur journal. C'est pourquoi l'ambassadeur de France, n'ayant pas de journaliste accrédité, envoya un espion, en l'occurrence moi. Ce n'était pas très commode. Très vite, ils ressentirent une double difficulté, les journalistes. Leur trop grande extériorité aux questions au cours, la gêne qui en résultait pour opérer les traductions convenables. Il était naturel dans ces conditions qu'ils fassent pression pour obtenir l'accès dans l'Ola et qu'en attendant, ils usent de leurs relations pour glaner des compléments d'information. La situation faite au bureau de presse encourage les efforts pour rompre le secret de la part même des fonctionnaires qui avaient la charge de l'information. D'aucuns, en tant qu'experts, disposaient de renseignements qu'ils étaient tentés d'utiliser pour accomplir leurs tâches. D'autres, enfin, avaient des liens personnels avec des évêques qui permettaient de s'informer. On ne citera aucun nom par charité chrétienne, dans la mesure où certains cardinaux et archevêques bénéficièrent d'un statut particulièrement privilégié. En tout cas, la dramatisation systématique du Concile par certains journaux s'explique en partie par l'impossibilité où étaient plusieurs représentants de la presse de saisir la réalité du Concile. Ils furent ainsi amenés à présenter par analogie les régimes parlementaires et le Concile. La plupart des journalistes trouvaient leur matière dans les articles de l'Ars Orientalis Romano ou de la Civiltà Cattolica ou des informations catholiques internationales. Ils étaient dans la situation de l'envoyé permanent ou spécial d'un journal à Moscou. Ils ne s'informeraient qu'en lisant la Pravda ou les Izvestia. C'est avec le temps qu'en France, Le Monde, Le Figaro, etc., les grands hebdomadaires multiplièrent leurs informations sur le Concile. Le 1er décembre, et j'entre dans la deuxième partie, oui, le 8 décembre 1965, fête de l'Immaculée Conception, se déroulait place Saint-Pierre la cérémonie de clôture de Vatican II. La lumière et la douceur pouvaient rappeler celles des cérémonies du 11 octobre 1962. C'était la fin des Ottobrates. Paul VI adressa au monde 8 messages, dont un aux artistes, un aux jeunes et un à Jacques Maritain. L'œuvre conciliaire, 16 documents, était considérée comme achevée puisque terminée. Tel n'était pourtant pas le cas pour une partie de l'opinion générale dans l'Église et dans le monde, si dispersée fut-elle. L'espérance d'un Vatican III, renforcée par la notion de crise de l'Église, s'ouvrit dès 1966. La revue Concilium, je vais passer sur ce sujet, mon confrère Rémi Braque étant beaucoup plus savant sur moi, fondée en 1965 par d'éminents théologiens, Yves Courgard, Karl Rahner, ainsi que la revue Communio, fondée par Ursula Balthazar et le cardinal Ratzinger, en fournissent l'exemple. Paul VI n'était pas populaire. Jean XXIII laissait un souvenir qui constituait celui d'une église en révolution de velours, une légende à vrai dire. Il avait fait aimer l'église. Paul VI la faisait respecter. L'après-concile en version concert, si l'on peut dire, les prolongements institutionnels, commissions, etc., les réponses de la curie, ne mobilisèrent guère l'attention, sauf des médias spécialisés. La révolution béante était ouverte par Vatican II, elle entrait en histoire sans avenir stimulant. L'information entretenait un feu aux braises faiblissantes. En fait, Vatican II était désormais entre les mains et dans les gestes et paroles du souverain pontife, et les 16 documents conciliaires étaient peu lus. Le 25 juillet 1968, le Saint-Siège publiait une encyclique intitulée « Humanae Vitae ».« Humanae Vitae tradendae munus gravissimo ». Dite le sacrement de mariage et la régulation des naissances, commentaire qui n'était pas proposé par le Saint-Siège. Dite aussi l'encyclique de la pilule, ce qui mettait hors de lui mon prédécesseur Pierre Chaudu. Elle est un peu au cœur du sujet traité aujourd'hui. Plusieurs considérations s'imposent. Tout d'abord, la question du mariage et de ses fins finit par entrer dans les profondeurs du Concile un peu secrètement. En avril 1963, certes, Jean XXIII avait créé une commission pontificale pour l'étude de la population, de la famille, de la natalité, pour la compréhension de la démographie, mais cette commission s'élargit de session en session, sans qu'on sache comment, incluant des laïcs. Les avis d'abord hostiles à la contraception artificielle furent brusquement dominés par les opposants à la doctrine traditionnelle de l'Église. La question ne cessa d'être ajournée. Une large partie des prêtres conciliaires ne suivit pas le fil du débat. La question du mariage devint prédominante. Le débat se rétrécit. Paul VI insista sur le concept de « paternité responsable », expression floue en termes de relations intimes dans un couple. En 1964, le pape retira les 4 paragraphes consacrés au mariage du débat de la future constitution « Gaudium et Spes ». La décision de Paul VI fut personnelle et douloureuse. Surtout, il semblerait que le pape, instruit des délibérations et des conclusions de la commission ad hoc, ait écrit Humanae Vitae seul, sans aucune consultation périphérique. Telle est du moins l'opinion fort discutée du cardinal Casaroli, que j'ai entendu moi-même, futur secrétaire d'État de Jean-Paul II. Si la date était mal choisie, cette autorité autista, autiste et de conducteur à la fois, ajouta au conflit. La même considération entra dans le rejet violent par l'opinion du discours prononcé par Benoît XVI à Ratisbonne. Le 12 septembre 2006, a-t-il écrit lui-même, à Ratisbonne, le 12 septembre 2006, qu'il écrit lui-même, le dit-il, sans avis concordant. Paul VI, comme Benoît XVI, furent invectivés par les médias et la rue. Et le père Martinet le dit à propos, en parlant d'un nouvel Hiroshima. Je cite le début. Dans ce nouveau Hiroshima qui a été la parution, plus exactement l'explosion de l'encyclique Humanae Vitae, clercs et laïcs ont en effet mêlé leurs voix pour faire monter bien haut dans le ciel de la presse mondiale les accents de leur scandale, de leur douleur et même de leur refus révolté. Témoins de cette crise de désarroi des foyers, surtout des foyers chrétiens, qui se sont sentis rejetés plus de 20 ans en arrière, sur eux et de quelque manière aussi sur leurs prêtres, se retombés subitement des obligations qu'ils croyaient désormais dépassées et dont leur poids paraît d'autant plus arbitraire qu'il est plus odieux. Les conséquences qui nous intéressent le plus ici, directes de la non-réception de Vatican II, furent capitales. Ce fut l'ultime texte doctrinal de Paul VI. Surtout, et après, l'encyclique comme genre pontifical n'eut plus jamais le retentissement qu'elle produisait jadis sous naguère, même si Jean-Paul II en publia 14. Et de toute façon, elles suscitèrent les défiances. Enfin, et c'est le point capital de nos jours, toutes les questions sociétales échappèrent désormais à la possibilité pour le Saint-Siège d'exprimer un avis, fût-il concordant ou discordant. Et les considérations sur l'amour, c'est-à-dire l'éros, fut désormais refusée au Saint-Siège. À preuve, l'étonnante encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, qui présente l'éros comme le chemin naturel vers l'agapé, dans une parfaite classification des satisfactions qu'il présente, l'éros, est encore aujourd'hui un texte sans lecteur et sans commentateur. La popularité de Paul VI due à cette encyclique et qui effaça les 10 années de règne suivantes allait jusqu'à l'indifférence et même l'ironie que suscita en avril 78 sa proposition d'échanger sa personne contre celle d'Aldo Moro. Après de 20 appels à sa libération, soyons clairs, les terroristes ne voulaient pas du pape. Et Paul VI mourut sans cérémonie le 6 août 1978, dans la soirée de la Transfiguration, le réveil que lui avait donné sa mère dans son enfance et que le suivait partout s'arrêta au moment de son décès. L'élection de Jean-Paul II, le 16 octobre 1978, constitua l'événement médiatique spectaculaire qui restaura spectaculairement l'image de la papauté. Elle fit oublier la crise de l'Église romaine qui défendait son image depuis 1968. Elle fut préparée comme un concert des Rolling Stones. La coupole de Saint-Pierre baignant dans une lumière verte, tel un aquarium, les faisceaux de couleurs balayant la place Saint-Pierre, l'attente portée à l'incandescence, on sait la suite, l'erreur sur la nationalité, la faute de prononciation en italien, le sourire de l'éternelle jeunesse. Il ne faudrait pas considérer cette soirée spectaculaire comme le fruit d'un spécialiste en communication. Le Vatican puisa dans ses moyens techniques très perfectionnés sous Pie XII et ses successeurs. Mais la Providence, si l'on peut dire, fournit l'acteur. Mis à part que Karol Wojtyła était nimbé d'un destin peu commun, Jean-Paul II s'inscrivait dans la droite ligne d'un concile fermé et de positions sociétales identiques à ses prédécesseurs. Paul VI, il avait encouragé le pape Pontini à publier l'encyclique Humanae Vitae, très fortement. Et les encycliques que Jean-Paul II publia de 1979 à 2003 explicitèrent l'œuvre du concile dans ses parties dogmatiques, ecclésiologiques et sociales, c'est-à-dire l'Église ad intra, et ses parties sociétales, l'Église ad extra, notamment l'explicitation de la constitution Gaudium et Spes. La nouveauté du pontificat se caractérisa par l'incarnation du souverain pontife comme pèlerin pour informer, expliciter et témoigner. Tous les voyages de Paul VI avaient été symboliques, de Jérusalem aux portes de la Chine, visitant les 5 continents. Jean-Paul II accomplit 3 fois le voyage de la Terre à la Lune, en 104 visites pastorales, dont certaines réitérées. Mais il ne put satisfaire aucun de ces 2 souhaits, qui sont d'ailleurs toujours, si j'ose dire, les souhaits du pontife actuel, Moscou et Pékin. Ces voyages célèbres entrèrent dans les pas de Paul VI, qui le premier parla devant l'Assemblée générale de l'ONU, comme tous ses successeurs. La fameuse phrase de Paul VI au moment de prendre la parole devant cette assemblée unique au monde, rédigée d'ailleurs par le cardinal Poupart, « J'aurai à César ce qui est à César ». Et il dénonça la guerre avec des accents brillantistes. Jean-Paul II, dont les voyages furent remarquablement organisés par les services du Vatican, familiarisa la charge de vicaire du Christ du point culminant de l'Eucharistie dans des stades bondés à des fantaisies et des gamineries d'un pape en coiffe d'Indien ou en imitation de Charlot quand il eut emprunté une canne. Le corps du pape inspirait une forme d'existence vitale diffusée par l'intérêt qu'il portait lui-même au corps en général. Précisément, il s'apprêtait en 1978 à écrire un livre sur ce sujet. Élu, il transforma ses exercices en catéchèse du mercredi lors des audiences publiques bondées place Saint-Pierre. Le hasard, et toujours peut-être la providence, fit que l'attentat du 14 mai 1981 révéla au public, et pas à l'opinion publique, un pontife blessé sur un lit d'hôpital, bientôt convalescent en robe de chambre bleue, convenant et conversant avec ses voisins de chambre. Personne n'avait soupçonné que le pape ait pu avoir une telle humanité. Et son règne porta au zénith la photographie, qui enrichit d'ailleurs les deux agences bénéficiaires de l'exclusivité des clichés. Les clichés de pèlerins pris avec le pape en audience publique ou semi-publique à ses côtés tapissèrent progressivement les demeures du monde entier, quitte à entraîner la désertion, je l'ai vécu, des rencontres les plus savantes quand les clichés étaient proposés à la commande dans une salle voisine. La formule qu'on disait à l'école de Rome, c'est « Et mamie, prends-en encore deux pour papy ». C'était ça au moment où les couloirs étaient désertés. Mais la plus féconde invention de Jean-Paul II revient à établir en 1986 les JMJ, intitulés également « Je marche pour Jésus », on le sait. Elles substituèrent à la mémoire déclinante de l'opinion publique sur un héritage considéré mal perçu, un peuple chrétien rassemblé en réalité sur trois générations au fil des ans. Des jeunes de 18 à 25 ans, les parents des jeunes, et bientôt les anciens parents des jeunes devenus des anciens parents des jeunes. Aucun de ses successeurs n'osa revenir sur ce rite quasi-liturgique. Même Benoît XVI, qui songea en 2005 à Cologne, et laissa perplexe son auditoire, mais les maintint pendant son règne. On peut dire que les cercles de l'opinion publique qui ne cessèrent de s'élargir des experts aux curieux et de se rétrécir des curieux aux indifférents, ou de s'étendre, à la suite de Vatican II, furent remplacés par le rythme des JMJ qui passèrent progressivement des enthousiastes aux fidèles. Ils forment aujourd'hui une chrétienté dont la ferveur se disperse entre de multiples formes de piété et d'action sur lesquelles je ne disserte pas. Benoît XVI, on s'en souvient, fut élu le 19 avril 2005 et l'annonce de ce choix par le conclave ainsi que le nomastique de l'élu fut sifflé place Saint-Pierre. Le nouveau pape fut dans les jours qui suivirent l'objet de l'asie impitoyable, notamment dans la presse allemande, très au-delà des caricatures consacrées à Jean-Paul II en train de lire Mickey pendant qu'ils étaient à choisir l'écurie. Or, le 12 décembre 2012, Benoît XVI envoyait en anglais sur son compte Twitter @pontifex le premier de ses tweets. « Dear friends, I'm pleased to get in touch with you through Twitter. Thank you for your generous response. I bless all of you from my heart. » C'est une grande nouveauté qui anticipe tout ce qui se passe aujourd'hui avec le pape François. Et le 21 janvier 2013, c'est pour le chancelier un premier tweet en latin qu'il va traduire tout de suite. « Unitati Christi Fidelium integre studentes quid jubet dominus. Orare Saint-Père, justitiam facilitare, amare probitatem, humiles secum ambulare. » Je trouve c'est beau. Voilà. Le latin faisait entrer quand même dans le compte tweet. Dire que le Vatican est entré dans l'ère du numérique ne change pas grand-chose aux défis que rencontre l'Église catholique et romaine depuis Vatican II. Le jeune secrétaire d'État, Gian Battista Montini, se levait quand Pionce l'appelait au téléphone. Le cliché est connu. Pionce parlait par encyclique, Pie XII aussi. Ses successeurs depuis Vatican II utilisent la radio, Pie XII aussi. Mais surtout, ils se font interviewer, portraiturer, ne se refusent pas aux selfies. Ils publient leurs histoires de vie, ils sont immergés dans ce qu'on appelle la transparence. Après beaucoup de tâtonnements, le pape François a conduit une réforme fondamentale des moyens de communication du Saint-Siège, regroupant l'ensemble des médias en un secrétariat pour la communication, nommé Dicaster pour la communication depuis le 26 juin 2018, Monsieur le Président. à la tête duquel fut placé Mgr Vigano. Ce nouveau portail d'information, vaticannews.va, regroupe les différents médias du Saint-Siège, Radio Vatican, le centre de télévision du Vatican, l'Observatoire Romano, la typographie Vatican. Vatican News exploite toutes les possibilités d'Internet. Le portail est animé par une rédaction unique, mais avec une très grande variété linguistique. Le Vatican signale aussi, à cet égard, sa présence sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. L'ensemble fut présenté au Conseil des cardinaux C8 le 11 décembre 2017. Mais c'est le 21 mars 2018 tout de même que le préfet du secrétariat pour la communication dut remettre sa démission. La cause en était une lettre de Benoît XVI qui refusait la publication défigurée d'un texte censuré ou remanié, comme on veut. Renaissaient ainsi les grandes querelles sur les textes émanant de la librairie vaticane quand celle-ci était sous la direction de Mgr Felici, secrétaire du Concile, qui surveillait la publication définitive des constitutions ou décrets apostoliques. À la virgule près. Quelquefois, une virgule, comme on le sait, peut peser très lourd en latin. On prétend souvent que le Christ, si j'ai fini, fut le meilleur communicant du monde et réalisa une mission dont il était trop conscient pour ne pas en mourir. Vicaire du Christ fut le titre introduit au 5e siècle par le premier évêque de Rome au synode de 495. Tous les papes en sont conscients. On peut même dire qu'ils sont éduqués à la charge pour exercer cette fonction, entre autres. C'est à dessein qu'a été oublié ici, dans cet exposé, la question cruciale qui concerne la liberté de la presse, de la liberté religieuse, qui implique naturellement la liberté d'expression. Elle conduit au schisme de Mgr Lefebvre et fut l'œuvre de Paul VI, proclamé le 7 décembre 1965, au terme d'un violent débat. La liberté religieuse, dans l'esprit du souverain pontife, signifie la liberté de ne pas croire, mais également la liberté de croire, ce que ne comprirent jamais ses opposants, ce que fit vivre Caro Voltigua, devenu Jean-Paul II. Je termine. L'occhio médiatico et la censure ecclésiastique furent toujours mauvais ménage, on s'en doute. Les travaux récents sur la censure au XIXe siècle ont montré qu'elle fut moins lourde que sa réputation, eu égard au volume des écrits qui lui sont adressés. Le Saint-Siège, le Vatican et l'Église furent toujours pris entre deux étaux, ne rien dire ou faire comprendre. Pour résoudre l'alternative, la solution fut le secret. L'opinion publique le brisa. Pouvait-il en être autrement ? Non. Jean Delumeau écrivit jadis en 1977 « Le christianisme va-t-il mourir ?» et René Raymond en 2001 « Le christianisme en accusation ». Ce dernier ouvrage rencontra quelques froideurs ecclésiastiques, eu égard au fait que l'auteur était réputé formellement chrétien. Guillaume Cuchet, un très jeune collègue historien fort brillant et couronné par notre compagnie, publia récemment « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ?» Anatomie d'un effondrement. Je veux penser qu'il a cédé à la pression de son éditeur, car l'assertion n'est pas prouvée pour autant. Et surtout s'il s'agit de la France. La France, pays de mission, écrivaient les abbés Godet et Daniel en 1943, elle l'est toujours, et avec elle nombre de pays. La question fondamentale reste, avec la mondialisation, celle du langage, de la culturation et de l'éclaircissement, de la fameuse phrase que répètent tous les papes, unité dans la diversité. C'est un thème qui sera développé à la rentrée au cours du séminaire de notre conseil, Madame Mireille Delmas-Marty. Et pour terminer, un mot. Notre confrère très savant, et que j'estime énormément, il le sait, Rémi Brague, à une réunion à l'Élysée où on parlait du prochain voyage du président de la République, a dit, avec cette ironie dont il est capable, heureusement, au fond, le pape François, c'est Trump. Je pense qu'il parlait à ce moment-là. Je pense que tu t'en souviens pas, non ? Tu l'as dit. Et comment ? Non, il était 11h30. D'ailleurs, tu ne bois pas. Et ce n'était pas faux. Parce qu'au fond, entre Trump et le pape François, il y a un certain parallèle. Trump a satisfait ce que j'appellerais les déçus de Barack Obama. C'est connu de tout le monde, ça traite dans la presse. Le pape François, lui, favorise ceux qui sont les déçus de Benoît XVI, du trop dogmatique Benoît XVI, du peu, je dirais, charismatique Benoît XVI. Et au fond, il recherche un athlète, comme de sa façon, Trump est un peu un athlète. La tête de Dieu, c'est Jean-Paul II. Le pape François, c'est au fond celui qui peut ressembler à Trump. En tout cas, un athlète de Dieu, quand Jean-Paul II. Tout s'explique maintenant pourquoi 30 millions de tweets tous les jours et même quelquefois plus. Merci.